Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes au festival À Tour de Bulle 2019 avec Patrick Mallet et nous allons parler des Sansons. Bonjour.
Bonjour.
Les Sansons et L'Amateur de Souffrance, c'est une trilogie dont le dernier tome vient de paraître chez Vent d'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le pitch ?
C'est parti en fait sur l'histoire des Sansons. Ils sont une famille historique de bourreaux qui ont régné entre guillemets sous l'Ancien Régime et un petit peu avant aussi, voilà, sur 6 générations. L'idée, c'était de placer ces personnages-là plutôt, entre guillemets, antipathiques, voire méchants, mais de les mettre justement sous un nouvel angle, d'en faire les héros de mon histoire. Le parti pris de base, c'était vraiment ça. Les Sansons sont les héros de l'histoire et ils vont être opposés à un personnage beaucoup plus énigmatique et fantastique qui est l'Amateur de Souffrance. Le premier des Sansons va se rendre compte que ce personnage vient profiter des exécutions et rajeunir à la vue des supplices, et donc il va être complètement choqué par cette manière de procéder, et il va essayer de lutter contre lui, et en fait il va transmettre ce qu'il a appris sur ce personnage à son descendant, et la série raconte effectivement la lutte des différents membres de la famille successifs contre ce personnage.
Comment vous est venue l'envie de travailler sur cette famille ? Est-ce que c'est vous avez eu connaissance de la famille, vous aviez envie de détailler ça au niveau historique ou c'est une commande ?
C'est pas une commande, les Sansons. Je crois d'ailleurs que j'étais ici à Tours, à un autre festival Tour de Bulle, il y a quelques années, et il y avait eu Simon Hiro, un collègue qui avait fait une bande dessinée qui s'appelle Hautes Œuvres, qui raconte le supplice de Damiens, perpétré justement par les Sansons, les bourreaux. Et moi j'avais acheté ce bouquin, c'était un choc à lire, enfin un truc assez dingue, et j'avais rencontré Simon après ici, et c'est lui qui le premier m'a parlé des Sansons, de cette famille de bourreaux. Et moi tout de suite, moi j'ai mis ça dans un coin quelque part en me disant, il y a forcément un truc à faire avec cette famille-là, ça aurait pu être une autre famille, mais moi, il y avait l'aspect historique, la période historique qui m'intéressait beaucoup aussi. Donc vraiment, le noyau, c'est cette rencontre avec Simon qui me parle des Sansons. Donc je lis après un bouquin sur l'histoire de cette famille. Je lis aussi les mémoires des Sansons, parce que le dernier des 6 a rédigé ses mémoires. On lui a demandé, voilà, écrivez donc un petit peu l'histoire de votre famille. Et donc c'est un document qu'on peut trouver, voilà, sur Internet, libre de droit, etc. Et moi, c'était justement ça qu'il me fallait. C'était à la fois quelque chose de très historique, de très étudié, une espèce de thèse, quoi, sur la famille. Et en même temps, un point de vue presque romanesque. Mon arrière-grand-père a fait ça, et mon grand-père. Donc un truc complètement subjectif, mais justement, moi, j'avais besoin de mélanger les deux.
C'est ce qu'on retrouve au fil des 3 tomes, hein, au niveau de la famille en tout cas. Comment avez-vous monté du coup le personnage opposé qui ajoute une grosse touche de fantastique et qui va, je pense, souligner un peu le côté romanesque aussi de cette famille ?
Alors effectivement, oui, moi le fantastique, moi je baigne dedans depuis assez jeune, depuis Stephen King, Lovecraft et John Carpenter. Enfin voilà, j'ai vraiment un passif où j'apprécie ce genre de littérature, les littératures de l'imaginaire. Et l'idée, alors, je me rappelle plus très bien comment j'ai eu l'idée d'un personnage fantastique, mais je savais qu'il fallait un antagoniste. Si je faisais des bourreaux les héros de l'histoire, bon, il faut quelqu'un en face contre lequel ils s'opposent. Et puis après, j'avais le problème de me dire comment est-ce que je trouve quelqu'un contre lequel ils vont lutter de père en fils sur 6 générations. Et là, alors, je crois pas que je suis tombé sur ce texte, mais j'ai dû m'en souvenir, et je l'ai relu pour la circonstance. Il y a une nouvelle qui s'appelle « Le convive des dernières fêtes » d'un écrivain français qui s'appelle Villiers de l'Isle-Adam, donc un peu un classique, voilà, comme ça. Et ça raconte l'histoire d'un personnage un peu énigmatique, blafard, comme ça. Le narrateur le voit, il semble qu'ils se connaissent. Ah, mais venez, voilà, il y a une fête pas loin, dans les salons un peu libertins. Donc le narrateur ramène ce personnage, et en fait le type reste effectivement dans un coin sur un fauteuil avec tout le monde qui s'amuse autour. Et il va, toute la nouvelle, il va passer comme ça la nuit, en fait, à rester assis. Et à l'aube, quand même, on dit, mais alors, vous êtes là pourquoi, quoi? Et en fait, il va jeter un froid monstrueux en disant, ben, moi, j'attends juste l'exécution qui a lieu à l'aube. Je suis là pour assister à l'exécution. Et donc, il se lève, il part, et tout le monde, voilà, blâme, tout, ça tombe comme une chape de plomb sur le final de la nouvelle. Voilà, j'ai imaginé ce personnage-là, j'ai fait un petit peu des recherches, et j'ai trouvé, alors ça n'a pas été facile, mais il y a un petit article dans une revue de littérature fantastique qui s'appelle Le Visage Vert, qui parlait des amateurs de souffrance. C'était une espèce de note de bas de page sur un article plus important sur le supplice de Damiens, qui était donc un des supplices les plus abominables qu'on ait perpétré sur un être humain, le gars qui avait poignardé Louis XV, qui était torturé pendant des heures parce que voilà, s'il était coupable de régicide. Et dans une note, on explique qu'il y avait effectivement des amateurs de souffrance ou des amateurs in suffering, parce que c'était apparemment principalement des Anglais, qui étaient des personnages plutôt des nobles, on va dire, qui voyageaient vraiment de ville en ville pour assister à différentes exécutions. Et en fait, en gros, je prends ça, j'y ajoute un côté fantastique, donc le côté vampirique, en fait, où le personnage... Alors bon, je spoil un peu, hein, mais... Le personnage rajeunit au contact des supplices auxquels il assiste, mais, revers de la médaille, il vieillit aussi beaucoup plus vite, il consomme sa vie beaucoup plus vite. Et donc il est sans arrêt obligé de revenir, assister à un nouveau supplice, ou se déplacer dans un autre endroit, s'il n'y en a pas, ou alors dealer avec les bourreaux pour essayer de faire des trucs un peu, enfin vous verrez dans le tome 1, voilà, il y a des trucs un peu comme ça, où il récupère des têtes pour les amener aux familles des condamnés, et provoquer un nouveau supplice visuel supplémentaire qui le fait un peu rajeunir aussi. Et donc voilà, tout ça, c'est ce mélange qui donne l'amateur de souffrance.
Il a un côté assez 19e, je trouve, assez littérature fantastique du 19e par rapport aux époques, hein, qui sont pas celles-là.
Oui, c'est vrai. Ben, c'est peut-être parce qu'il vient justement de cette nouvelle de Villiers-l'Isle-Adam, qui est effectivement écrivain de cette époque-là. Oui, le côté littéraire, bon, moi, de toute manière, dans mes scénarios, dans mes dialogues, j'aime un côté un petit peu, oui, littéraire, un petit peu comme ça dans mes dialogues. Donc, je préfère que les personnages aient qu'on lise vraiment leurs dialogues. Après, quand il faut être un peu cru ou vulgaire, si c'est nécessaire, je le fais, mais globalement, oui, tant mieux d'ailleurs si on a ce ressenti-là. C'est vrai que déjà pour une autre série que j'avais faite à Cab, il fallait, qui était donc ce qui se passait avant le Moby Dick d'Herman Melville, moi je voulais qu'on, entre guillemets, on lise mes albums et qu'après on aille directement sur le roman d'Herman Melville en n'ayant pas l'impression d'un palier, tu vois, un truc qu'on aurait raté parce que tout d'un coup, oh, on passe vraiment à quelque chose de moins bien écrit. Il y a vraiment une qualité que j'essaie d'avoir en me disant, bon, ça, alors c'est un peu écrit, mais voilà, moi j'aime ça, c'est vrai.
Au niveau du choix du dessinateur, ça s'est fait comment ?
Alors ça, on le doit à l'éditeur, Frédéric Manger, parce que Frédéric, en fait, je suis allé le voir avec l'idée des Sansons, et puis, pour l'anecdote, il voulait faire une série en 6 volumes, et donc j'arrivais pile poil avec mon album, mes 6 albums avec mes 6 Sansons, et donc voilà, donc on arrive comme ça, il dit, ben là j'ai un dessinateur, c'est Boris Beuzelin, qui avait déjà fait d'autres albums avec lui, hop, il nous met ensemble, enfin il donne mon scénario à Boris, Boris accroche, donc voilà, on est parti comme ça. Et après, alors c'était un peu long parce que l'idée c'était de dessiner la quasi-totalité de la série entière pour ensuite les publier de manière très rapprochée. On aurait dû les sortir en 6 albums sur 6 mois. Finalement, on a changé de format et on est parti sur 3 albums, à peu près tous les 3-4 mois, avec à l'intérieur à chaque fois comme 2 chapitres en fait, 2 parties. Il y a deux chansons dans chacun des 3 albums. Et on arrive à 6.
Et au niveau des échanges entre vous pour, pour créer les personnages, ça s'est fait comment ?
Ça s'est fait assez simplement. C'est vrai que, alors Boris, il n'avait pas fait vraiment d'historique avant, donc il y a eu pas mal de recherches. En plus, la difficulté du scénario, c'était que les époques changent. Il y a eu pas mal de boulot. Je sais qu'au début, c'était un peu difficile pour lui. Et puis bon, au final, il s'est mis comme ça dans l'histoire et ça a très bien été. Après, c'est des croquis, voilà, et on s'envoyait des trucs, on s'appelait les premiers croquis de personnages, essayer de trouver un physique pour l'amateur où on puisse avoir un personnage qui peut avoir quasiment 20-30 ans jusqu'à 70-90 parce qu'il va vraiment passer en fonction de ce qu'il arrive à obtenir au niveau des supplices, soit il est vraiment très 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 vieux parce qu'il n'a rien à se mettre sous la dent, soit c'est l'orgie, comme par exemple quand il assiste à un régicide, et là il rajeunit vraiment beaucoup. Donc tout ça c'est des recherches, on valide en fait à deux, avec aussi l'éditeur, et voilà. Et puis ça s'est super bien passé en fait, tout s'est fait sans anicroche, enfin vraiment très bien.
Oui, c'est vrai que le travail il est admirable au niveau de la durée historique en fait qui avance, et donc du coup il faut vraiment plein de détails à chaque fois sur les costumes ou sur les fonds, donc c'est assez important. Je voulais savoir également au niveau des personnages, enfin de la famille des Sansons, en fait s'il y a eu une inspiration réelle à partir de portraits ou si c'est vraiment purement imaginé par le dessinateur.
Il me semble qu'il a peut-être regardé un petit peu s'il existait, mais il y a pas grand-chose. Et puis même, surtout pour les premiers, il y a vraiment que le quatrième Samson qui est le plus connu de la lignée, parce que c'est celui qui a guillotiné Marie-Antoinette et Louis XVI, qui est passé par la terreur. Donc lui, il y a des représentations, des gravures. Mais non, Boris, il est vraiment parti sur ses personnages. Et puis c'est vrai qu'il a quand même fait des trucs assez chouettes, parce qu'on a ils se ressemblent pas tous, mais on sent quand même la filiation. Il y avait toutes leurs épouses, les sœurs, les frères, les oncles. Enfin, et quand même, à des moments, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait parler effectivement de plusieurs personnages. Mais non, il s'en est très bien tiré sur toute la complexité, ouais, de cette famille. Parce que l'idée, c'était vraiment de montrer que c'est pas seulement un type qui abattait les têtes ou bien faisait tomber la guillotine. C'est vraiment, il y a une famille derrière. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a toute une logistique. Il y a des salaires parce qu'il faut payer les employés. Il y a du matériel à entretenir. Enfin, c'est vraiment, il pouvait pas être seul, quoi. Donc ça, je suis content qu'on ait pu le retranscrire, le quotidien des bourreaux en fait.
Et au niveau de l'écriture, il y a quelque chose d'assez technique, je pense, c'est qu'il y a une séparation entre l'action qui se passe et puis un journal intime qui sert de fil conducteur, mais qui est rédigé par différents personnages de la famille, différents membres de la famille. Est-ce que vous avez essayé de changer un peu le style dans le journal intime en fonction des personnes qui y intervenaient, ou vous avez essayé de faire un fil conducteur vraiment presque pas anonyme, mais où tout le monde écrivait pareil?
Je pense que si j'étais écrivain, j'aurais effectivement donné une voix différente. Parce que effectivement, le journal dont vous parlez, c'est les différents Sansons qui se le passent de père en fils et qui le continuent. Et donc normalement, c'est vrai, ça devrait être des écritures différentes. Moi, je suis plutôt parti du principe que c'était justement, comme vous dites, le fil conducteur de l'histoire. Ça me permettait aussi ce procédé, parce que j'avais que 46 pages pour chaque Sanson, donc raconter une vie en 46 pages. Le principe du journal me permettait de faire des accélérations à des moments sur différents événements en une case, voilà, hop, ben, mon fils est né, la case d'après, tac, on est 20 ans plus tard, et tout ça peut passer effectivement avec cette voix off qui est retranscrite dans le journal.
Au niveau du format aussi, c'est un petit format, enfin c'est un format, on va dire, comics, pas une grande taille de BD franco-belge. Ça vient d'où cette volonté?
Là aussi, c'était l'éditeur. On est vraiment parti, effectivement, vous dites format comics, c'était ça à l'origine. On devait avoir un découpage où, en moyenne, sur chaque page, il devait y avoir 5-6 cases, 6 ou 7 maximum. L'idée, c'était, comme il y a un dessinateur voilà, qui va s'occuper de toute la série, l'idée, c'était pas qu'il passe 6 ans à faire... Bon, au résultat, au final, c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Le truc a été très long à faire, mais il y avait effectivement un côté comics et pas du tout un format franco-belge. Il fallait qu'on ait à disposition la série complète pour la sortir. Et donc, ça sous-entendait, ben, parce que c'est difficile, hein, pour un dessinateur de travailler dans son coin. Boris, quand il a terminé le premier tome, ben, on se dit, hop, ça sort, on a les premiers retours, les premières critiques, et en fait, non, pendant 5-6 ans, personne n'a rien vu, enfin si, les amis, la famille, etc. Mais c'est vrai que c'est enfin maintenant que les 3 albums sont disponibles, que les gens peuvent lire la série dans sa totalité. Mais c'est vrai que ce principe-là, j'avais jamais travaillé comme ça, mais c'est pas mal, c'est difficile quand on le fait, mais au final, il y a un côté assez satisfaisant, où tout d'un coup, voilà, blam, vous avez la série complète. Même sur le tome 1, on avait déjà le tome 1 sur le quatrième de couve, on voit les couvertures de toute la série, donc c'est c'était aussi pour indiquer au lecteur que la série vraiment était complète et qu'on ne se lançait pas dans un truc sans savoir si on le finirait, quoi.
Est-ce que vous auriez une idée de bande-son à écouter pendant qu'on lit ces trois tomes?
Bah, c'est marrant, j'ai fait une émission de radio où un ingénieur, enfin le gars derrière la console, il avait lu mes dialogues et mis des bruitages et mis un peu de musique. Et c'était super impressionnant parce qu'effectivement, c'était les passages où le premier des Sansons explique qu'on ne naît pas bourreau, mais voilà, il faut le devenir. Donc il faut apprendre à rouer, à décapiter, à battre, enfin des trucs abominables. Et c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte, en fait, en l'écrivant, de la violence des propos. Et c'est en les écoutant, je me suis dit, ouais, la bande son, pourquoi pas. Moi, j'écoute beaucoup de musique de film. Donc voilà, des musiques sans parole, très épiques et tout ça. J'ai pas vraiment de conseils à part qu'est-ce que je peux dire. Moi, je peux écouter le Trône de Fer en boucle et Conan le Barbare en boucle. Voilà, mais bon, ça c'est personnel.
Un mot sur les couvertures. Déjà, le choix des couleurs. On est presque sur bleu, blanc, rouge, mais c'est pas dans cet ordre-là, du coup.
Ah oui, c'est vrai. Là, de nouveau, c'est vraiment plus Boris et l'éditeur. Je pense que le rouge a dû s'imposer vraiment pour le premier parce qu'il fallait marquer un peu. Après, les deux autres, c'est Boris, donc le dessinateur qui a rendu les couves, qui a fait les couleurs avec le coloriste. Moi, ça me va très bien. Je suis assez content aussi du logo, le Sanson avec le A qui ressemble un peu à un couperet de guillotine. Enfin, il y a vraiment une belle unité. Et puis oui, alors j'en ai pas parlé, mais les couleurs de Sylvain sont vraiment très belles. Enfin voilà, c'est toujours assez marrant quand on est que scénariste et qu'on voit les différentes étapes. D'abord le noir et blanc et puis les couleurs arrivent et voilà, on arrive à lire après ses propres histoires et on est encore plus surpris quand tout d'un coup quelqu'un se met à les réciter et mettre de la musique avec.
Vous travaillez sur quoi actuellement, si vous pouvez en parler?
Oui, alors je suis toujours scénariste sur deux albums. Alors je vais pas rentrer trop dans les détails. Je vais faire quelque chose de nouveau qui mélange histoire et fantastique à l'époque romaine, vers le mur d'Adrien. Donc voilà, avec des Pictes, des Romains, enfin que des trucs chouettes.
On vous propose d'emprunter un chemin, d'emprunter une voie, c'est-à-dire que vous pouvez partir au choix soit deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin, emprunter le chemin de briques jaunes, monter la Stairway to Heaven, descendre la Highway to Hell ou partir vers l'infini et au-delà. Vous prenez quoi comme chemin?
Ah, c'est difficile. Hein. Highway to Hell, c'est ça. J'aime bien, mais c'est pas tellement mon truc. Toy Story, c'était génial, mais pareil, Stairway to Heaven, ça fait envie. Je crois que je suis plus... alors, je suis pas forcément Disney, mais bon, c'est vrai que le Magicien d'Oz, ça reste quelque chose que j'ai vu, revu, qui est un film assez incroyable. Mais j'adore ce que vous avez dit, la formulation sur le Peter Pan. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le roman de Matthew Barry, donc un peu dépoussiéré comme ça du côté un peu gentil du Peter Pan de Disney. Je trouve qu'il y a il y a évidemment le Peter Pan de Loisel. Donc ouais, plutôt la deuxième étoile là, jusqu'au matin. Je vais prendre ce chemin-là, ouais.
Un mot pour conclure sur le festival, puisque c'est pas la première fois que vous venez.
Non, effectivement, j'avais reçu un prix pour un de mes albums sur ACAB. Voilà, donc moi je suis très content de revenir. Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu. Et puis bah là, il fait beau, ça va être vraiment très sympa. L'organisation est toujours au top et tout le monde est gentil. Donc je me réjouis vraiment de passer cet après-midi ici, quoi.
Merci.